ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli. Bonjour à vous, bienvenue dans cette émission de mai que j'ai choisi de consacrer au poète marocain Abdellatif Lahabi. J'ai déjà plusieurs fois lu des textes de lui sur les ondes de Radio B, des poèmes glanés dans les anthologies qui paraissent chaque année pour le printemps des poètes. De plus, si vous avez écouté il y a un an l'émission de mai 2025 qui réunissait des textes issus d'une anthologie de la poésie gazaoui d'aujourd'hui, la traduction de l'arabe au français était assurée par Abdellatif Lahabi. D'ailleurs, je précise que cette émission est en réécoute sur le site de Radio B. Il était donc grand temps de consacrer à ce poète majeur une heure entière à l'occasion de la parution cette année au Castor Astral d'un recueil intitulé « Un dernier pour la route ». Un titre qui peut laisser penser qu'il s'agirait de l'ultime création d'un auteur jusqu'ici prolixe qui publie régulièrement depuis le début des années 90. Mais à la lecture de l'ouvrage, on se rend compte que s'il y a effectivement une bonne part de nostalgie dans ses poèmes, de saudade comme il la nomme, il y a aussi un grand désir de transmettre au lecteur tout ce qui le révolte en ce monde et dans le même temps tout ce qui fait le sel de la vie à travers les instants heureux qui l'égrènent au fil des pages. J'en veux pour preuve ce dernier poème qui clôt le recueil et qui en explicite le titre. Les bons moments. On ne sait pas bien parler des bons moments qu'on a passés. C'est comme les écrits un peu laborieux sur le bonheur. Ça ne fait pas battre plus vite le cœur et il n'arrache une petite larme qu'aux âmes très sensibles. De ces bons moments, je me contenterai d'évoquer ici quelques-uns vécus dans les circonstances et les lieux les plus improbables, ainsi que d'autres qui s'imposeront à moi au fil de la plume. En prison, après la visite hebdomadaire, quand je faisais bombance avec mes camarades, grâce aux tagines et aux gâteries que nous préparaient amoureusement nos familles. À l'hôpital, quand ma compagne venait me rendre visite et que le merveilleux policier chargé de me surveiller sortait dignement de la chambre pour nous laisser jouir pleinement de notre intimité et monter la garde. À Cordoue, quand j'ai visité pour la première fois la mosquée cathédrale et failli me mettre à genoux pour prier. Oui, prier devant le miracle de l'art. Chaque fois que j'ai mis les pieds en Andalousie et que la terre s'est mise à me parler spontanément en espagnol et en arabe. À Caracas, ou Medellin, ou après que j'ai lu mes poèmes, devant des milliers de personnes, des dizaines de jeunes venaient m'entourer, me toucher la main, me caresser le dos, m'offrir des poèmes manuscrits, en m'appelant du plus doux, du plus juste des noms que je puisse revendiquer, poeta. En Égypte, au Mexique, où j'ai partagé avec mon aimé le bonheur de réaliser son rêve de petite fille. J'y ai butiné les fleurs de sa joie, épuisé constamment à son puits de science pour mieux apprécier ce que je découvrais. À Istanbul, où le chant des mille muezzines appelant à la prière de l'aube me donnait la chair de poule, m'enchantait au point de me réconcilier avec la religion de mes ancêtres. À à Jérusalem, depuis le Mont des Oliviers, quand mon regard a pu l'embrasser et se perdre en elle, puis la soulever, la mettre sur un tapis volant, pour la déposer sur une terre que l'histoire n'a pas abîmée, où la guerre des mémoires n'a pas eu lieu, et avec la paix revenue, me retourner pour contempler mon œuvre et dire comme le dieu des monothéistes « Cela est bien ». À Aroura, près de Rabat, dans la maison avec sa terrasse donnant sur la mer, où je guettais au coucher du soleil le fameux rayon vert qu'il devait émettre avant de se noyer dans son sang qui se fige, où je guettais ensuite, au son de quelques mètres du jazz et du chuintement du ressac, non l'apparition, mais ce que ma fibre mystique me faisait appeler la naissance des étoiles. Bien avant tout cela, du temps que j'étais jeune et beau, il y eut les éblouissements de l'amour, initiateur et éclaireur charnel jusqu'à l'os, primitif, sans foi ni loi, sauf celle que dicte et redicte le désir. C'était dans un des petits cagibis d'un parking, mon chez-moi d'étudiant désargenté. Lit d'une place, pas d'eau chaude, pick-up et quelques disques, dont un de Jacques Brel, que ma compagne et moi faisions tourner en boucle, le son à fond pour couvrir les incantations sacrilèges et tonitruantes du plaisir. Toutes ces matinées où je vais à un rendez-vous amoureux très singulier, cela se passe dans une pièce où je place toujours mon bureau devant une fenêtre. Je m'assois et commence à attendre. Trois arbres s'offrent à ma vue. Qu'ils soient nus ou verdoyants, j'en scrute le moindre détail. Je leur accorde une attention que je ne prodiguerai pas à la plus belle des femmes. Au bout de ciel qui les coiffe, je présente mes hommages et puis j'attends, les yeux tantôt ouverts, tantôt fermés. Un premier mot surgit. Je vérifie s'il est le bon sésame et me lance. Je sens qu'elle vient le poème. En arabe, le mot est féminin. Je me sens plus vivant, en fait, vivant tout court. Je déploie mes ailes, je marche, ma voix intérieure se fait audible, s'élève, s'écrit. Je soulève le couvercle de la page, mon rendez-vous est là. Je vais en prendre soin, le lire 100 fois avant de consentir à lui donner la clé des champs. Il faut que je m'en arrête là car les bons moments qui commencent à se bousculer dans ma mémoire devenue tout à coup surpuissante risquent de ne plus avoir la même saveur. Un dernier pour la route, quand même. Je cherche, mais il y en a tellement que je renonce, je m'en sors en me disant « Pourquoi ce dernier ne serait-il pas le temps que j'ai passé à rédiger ce poème. Le morceau qui accompagnait ce poème est issu d'un album de 2014 composé par Anouar Brahem, joueur de oud tunisien, que je vous ai également déjà fait entendre dans mes émissions. Un album qui s'appelle justement « Souvenance » et le morceau, lui, a pour titre « Like a Dream ». Et ce sont d'autres titres d'Anouar Brahem qui vont accompagner les poèmes d'Abdelatif Lahabi tout au long de cette heure. Abdelatif Lahabi est né en 1942 à Fès, en fait présumé né, car ce n'est qu'en 1950 que les autorités du protectorat français au Maroc ont créé l'état civil et convoqué les chefs de famille pour faire inscrire leurs enfants. Abdelatif Lahabi s'en amuse dans le texte suivant. Présumé né. L'officier d'état civil a inscrit sous mes nom et prénom une date approximative de son choix. Mon père ne lui ayant donné que de vagues indications sur une année d'entre les années où il y avait la guerre et que nous appelions tour à tour l'an du bon, l'an de la fin, en référence aux pénuries et tickets de rationnement de cette époque. Je ne connais donc pas ma date de naissance et, croyez-le ou pas, je jubile de n'avoir jamais eu à fêter mon anniversaire. Abdelatif Lahabi était l'invité de l'émission « À voix nue » sur France Culture en avril 2025. Et au cours des 5 épisodes diffusés sur la semaine, il a retracé son parcours de vie. J'ai donc puisé dans ses entretiens un certain nombre d'éléments pour mieux vous faire appréhender un contexte qui éclaire ses poèmes. Il évoque notamment son enfance dans une famille de 8 enfants avec un père plutôt taiseux, Driss, artisan sellier, et à l'opposé de lui, Rita, une mère impétueuse, révoltée, avec une façon de parler d'une crudité fascinante dont il dit qu'elle a été pour lui un modèle pour tordre le cou à la langue et dont il se souvient affectueusement dans ce poème intitulé « Encore elle ». Ma mère, qui s'en est allée il y a plus d'un demi-siècle, sans que je puisse lui faire mes adieux, j'étais derrière les barreaux, est plus présente à mes côtés que la plupart de mes proches vivants. Nom d'un chien, comme elle est parlante, agissante, colérique et puissante. Je l'invoque, sans trop y croire, pour qu'elle vienne à mon secours, et c'est comme une gifle qu'elle m'envoie, en trouvant illico presto une solution à mon petit problème. Allez savoir pourquoi. Je suis heureux quand je pense à elle, par ces temps où le bonheur se fait rare. Si rare. Pourquoi, même les pires insultes et les malédictions qu'elle faisait pleuvoir sur ma tête quand je n'étais qu'un enfant, m'émerveillent-elles encore par leur cocasserie? Que le typhus noir t'emporte, que l'eau gelée te cloue les genoux. Juif, fils d'un autre juif, enfant du péché, gueule d'âne galeux, tignasse de charmeur de serpent, face de malchance, etc. Ah, le temps faste de sa langue vipérine. Elle, encore elle. Et malgré tout, quand je reparle d'elle, je n'ai jamais l'impression de me répéter. Thank you. toujours composé par Anouar Brahem, un morceau qui s'appelle « Battement » et appartient à un album de 1992, « Conte de l'incroyable amour ». À une époque où seulement 1% des enfants marocains sont scolarisés, Abdelatif a la chance, grâce à la volonté de ses parents, de faire partie de cette minorité. Il a ainsi accès à la langue française, qui lui apparaît au départ comme un charabia, une langue étrange qui le sidère, avant de devenir un outil de plus en plus familier et d'être plus tard sa langue d'écrivain. Les livres. Le fait d'avoir devant moi tous mes livres, rangés dans deux grandes étagères, me rassure autant que cela m'inquiète. La plupart du temps, je ne les vois pas, mais quand il m'arrive de les regarder, que m'inspire-t-il ? Sont-ce côte à côte les tombes des pères et mères, aïeux et aïeuls, des textes que je suis en train d'écrire ? Ou alors les enfants naturels de mes vies multiples et variées, avec des traits tellement distinctifs qu'on hésiterait à leur attribuer une paternité commune ? Voilà pourquoi je ne les relis qu'en cas de force majeure et suis tentée de leur appliquer, en l'adaptant, la fameuse maxime de Gibran Khalil Gibran à propos des enfants. « Mes livres ne sont pas mes livres, ils sont les enfants de la vie. » C'est en parallèle de ses études de lettres à Rabat que se produit pour Abdelatif Lahabi l'ouverture au monde, la découverte des arts et de la littérature, notamment l'œuvre de Dostoïevski et les ouvrages des auteurs maghrébins. Cela s'accompagne d'une prise de conscience politique avec la remise en question de la domination culturelle des colonisateurs français. Il est professeur de français à Rabat quand ont lieu les massacres de Casablanca en mars 1965, perpétrés sur des manifestants pacifiques par les forces de l'ordre du général Oufkir et au sujet desquels le roi Hassan II s'exprimera ainsi. « Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a pas de danger aussi grave pour l'État que celui d'un prétendu intellectuel. Il aurait mieux valu que vous soyez tous illettrés. » En 1966, Lahabi crée la revue « Souffle » qui a pour objectif de faire communiquer les arts entre eux et de concourir à la décolonisation des esprits. Il est rejoint en 1968 par Abraham Serfati, juif arabe d'obédience marxiste, et la revue prend alors un tournant plus contestataire. Dans le sillage de mai 68, des manifestations ont lieu au Maroc en 1970 et sont sévèrement réprimées. En janvier 1972, Abdelatif Lahabi est arrêté, torturé et condamné à 10 ans de prison. Il est enfermé dans la prison de Kenitra pendant 8 années, au cours desquelles l'écriture sera sa planche de salut. Ces années d'enfermement sont relatés dans un livre intitulé « Chronique de la citadelle d'exil ». Lahabi sortira de prison en 1980, grâce à une campagne internationale en sa faveur. Voici ce qu'il retient de ses années de prison, je le cite. « La prison m'a beaucoup appris sur moi-même, sur l'étrange continent de mon corps et de ma mémoire, sur mes passions, et leur tout aussi étrange labyrinthe de racines, sur ma force et ma faiblesse, mes capacités et mes limites. La prison est donc une impitoyable école de transparence. » De cette expérience, il dit aussi, dans son entretien pour l'émission À Voix Nue, qu'à sa sortie de prison, il a eu l'impression d'être un nouveau-né, de réapprendre à marcher droit, à regarder le ciel, éprouvant ainsi le choc de la liberté. Néanmoins, il ne s'est pas laissé envahir par la haine, affirmant que celle-ci est aussi une prison qui vous détruit d'abord vous-même. le pardon. Qu'en est-il du pardon ? J'y arrive, là, dans l'isoloir de mon âme, et en toute conscience, j'affirme avoir pardonné à tous ceux qui m'ont offensé et humilié, supplicié, privé de la lumière naturelle du jour et des étoiles de la vraie nuit, ceux qui ont interdit mon nom, mes poèmes, et m'ont planté des clous dans la langue. Ceux qui, après une éternité, m'ont sorti de la petite prison pour me jeter dans la grande, ne me laissant d'autre choix que de m'accorder à l'injonction de Rita, ma génitrice. Le pays qui t'humilie, quitte-le. Et là, ayant parcouru les saisons canoniques de la vie, je pardonne aussi à ceux qui ont ébranlé ma foi en l'amitié, la fraternité, le don de soi, sans retour sur investissement. Tiens, il n'y a que ceux. Ceux et pas celles. Dois-je creuser ? Mieux vaut prendre le contre-pied de ce qui précède. Et dans l'isoloir de mon âme, en toute conscience, demander à mon tour pardon à celles, ceux que j'ai pu humilier et offenser, et ainsi de suite. Éloge du désert. Je pense souvent au désert, ces tempêtes de feu, la parole neuve qui en surgit chaque millénaire, les civilisations disparues qu'il protège ou dénude à son gré, ces chemins qu'il n'ouvre qu'aux égarés, roi sans sujet, garant de la lumière pérégrine des étoiles, pourvoyeur de la plus pure des rosées, témoin averti de la mer et des océans, de la lente reptation des continents. Je pense au désert où je me sens si bien, alors qu'il est loin, si loin. Avec ces deux textes, c'était un morceau intitulé « La passante » de l'album « Blue Macam » de 2017, dans lequel Anwar Brahim s'était entouré du pianiste Django Bates, du batteur Jack DeJohnette et du contrebassiste Dave Holland. Après avoir bataillé pendant plusieurs années pour obtenir un passeport, Abdelatif Lahabi s'exile en France en 1985, poussé par le besoin de ne plus être le sujet d'un roi, mais de devenir citoyen d'une démocratie et d'écrire sans la menace de la censure, en homme libre. Il est accueilli à Créteil, où il vit toujours aujourd'hui. Si la séparation d'avec sa terre natale a été difficile à vivre, il avoue néanmoins que cette distance prise avec ses origines l'a amené à modifier en quelque sorte son rapport à l'humanité, à dépasser ce que Amin Maalouf nomme les identités meurtrières, et à se sentir une sorte d'appartenance à un peuple nomade. Ainsi, comme il le dit avec une pointe d'humour, il est devenu l'arabe errant. Pour lui, ce qui compte avant tout, c'est d'être en lien avec la vie, même si on n'en tire pas les fils, en ayant conscience des menaces qui pèsent sur l'humanité, en restant toujours vigilant et en refusant de se soumettre. Arrivé à l'âge de 84 ans, il reconnaît à la vieillesse une capacité à l'insolence, du fait qu'on n'a, à un certain âge, plus rien à perdre, et qu'une certaine lucidité amène à remettre sa vie, ses habitudes et ses croyances en question. Changement. 6 mois loin de moi-même, de mon double, de la voix du dedans, de mon troisième, non, de mon œil premier. De petits changements ne m'ont pas échappé. L'absence des oiseaux dans les arbres offerts à ma vue m'angoisse, plus que 100 discours sur le réchauffement climatique. Il m'arrive de m'esclaffer quand je suis tout seul, alors que je ris beaucoup moins en public. Distrait, je l'ai toujours été. Mais de moi-même, c'est du nouveau. J'ai lu quelque part, en vieillissant, on ne se fait pas de nouveaux amis. C'est vrai, nom d'un chien, me suis-je exclamé. Je regarde plus qu'il ne faut la télévision et ce faisant, j'en détourne les yeux la moitié du temps. Maintenant, les voyages m'indiffèrent. Je navigue avec plus de plaisir dans le vaisseau spatio-temporel de mes visions. Je n'écoute plus mon interlocuteur quand il continue à discourir au-delà, disons, de 3 minutes. Que de livres me tombent des mains, non seulement parce qu'ils sont ineptes, mais à cause de leur format peu commode et du poids insupportable de leurs 800 pages au bas mot. Les déceptions finissent par m'amuser. J'en suis devenu un collectionneur. Il y a encore peu de temps, les bébés me faisaient de grands sourires quand nos yeux se rencontraient. Aujourd'hui, je perçois comme une pointe d'étonnement dans leur regard. Je passe presque chaque jour en voiture devant le cimetière où je reposerai un jour. Il est à deux pas de chez moi. Il ne m'arrive plus de détourner le regard en feignant de penser à des choses plus joyeuses. Bien au contraire, je lui fais de la tête ou de la main un petit signe de reconnaissance. Pendant longtemps, mon sommeil était vide de rêves. La chaîne de mon inconscient est cryptée, avais-je ainsi décrit le phénomène. Récemment, mes nuits se sont brusquement repeuplées des rêves banals qui me renvoient de nouveau à l'enfermement, aux courses-poursuites, où je tente en vain d'échapper à des chasseurs de primes, mais aussi de très originaux, où j'assiste sans discontinuer à diverses versions de la Genèse et de l'Apocalypse. Mes oublis, devenus fréquents, portent entre autres sur les mots les plus ordinaires. En revanche, les mots rares, recherchés, voire tombés en désuétude, remontent spontanément à mes lèvres. Dans le même ordre d'idées, il m'arrive d'oublier ce que j'ai mangé la veille à midi, mais de me sentir dans la peau, l'esprit, les tourments, les désirs d'un personnage historique ou fictif ayant vécu et trépassé il y a 3000 ans. Je suis devenue une sorte d'ermite. Je le vois bien quand il m'arrive de me rendre à la ville lumière et de me surprendre à y observer effarée la fourmilière. À cause de mes vertèbres cervicales complètement soudées, je n'arrive plus à apercevoir mon nombril. J'essaie toujours de m'informer à plusieurs sources, de lire les nouveautés qui valent la peine à mon goût, de relire mes propres classiques. Mais paradoxalement, j'ai l'impression que ma culture baisse. Depuis quelque temps, j'ai des bouffées de chaleur. J'avoue que j'ai moins de mal à le confier en public qu'en privé. L'âge que j'ai officiellement me pose problème. Je ne le reconnais ni dans ma tête ni dans mon cœur. De plus, je me suis tellement rapprochée de mon enfance que j'ai du mal à me sentir adulte. Seule la proximité de la mort me ramène à la raison. Et vous, qui n'avez pas de problème de soudure des vertèbres et pouvez regarder sans peine votre nombril, quel petit changement vous est-il arrivé d'observer ces derniers temps en vous ? Never forget, n'oublie jamais, c'était le titre du morceau que vous venez d'entendre et qui fait partie du dernier album d'Anouar Brahem, sorti en mars 2025, After the Last Sky, toujours en compagnie de Dave Holland et Django Bates, auquel est venue s'adjoindre la violoncelliste allemande Anja Lechner. À ce jour, Abdellatif Lahbi a publié une vingtaine de recueils de poésie, mais également des romans, des essais, des textes de théâtre, ainsi que des livres pour la jeunesse. Il est aussi traducteur, et cette facette du personnage témoigne de sa volonté de faire connaître la poésie arabe. Il a été, et continue à être, le traducteur de nombreux poètes arabes, dont le plus connu est Mahmoud Darwish, et cette activité n'a pas cessé depuis l'année 1970, qui a vu paraître une anthologie de la poésie palestinienne de combat, jusqu'à l'an dernier, où il a traduit des textes de poètes gazaouis, réunis dans cette anthologie que j'ai mentionnée en début d'émission et qui s'appelle « Gaza, y a-t-il une vie avant la mort ?» Tout au long de ces années, il a vraiment suivi de près la poésie palestinienne. Il s'en explique ainsi dans le texte qui vient. En cette ultime saison de ma vie, j'essaie toujours de comprendre pourquoi j'ai pris un chemin et pas un autre, épousé une cause plus qu'une autre. écrit un livre au détriment peut-être d'un autre. Et donc, j'y arrive, pourquoi la Palestine m'a-t-elle tant occupée ? Les raisons sont multiples, mais pour ne pas assommer le lecteur, je citerai celle-ci, qui pourrait paraître cavalière. De toute la foule des poètes qu'il m'est arrivé de rencontrer dans ma vie, et un peu partout dans le monde, les poètes palestiniens ont été non seulement les plus nombreux, mais surtout, surtout, les plus fraternels. Au sein du recueil qui nous occupe aujourd'hui, ce texte est inclus dans un ensemble que Lahabi a appelé « J'essaie d'écrire un poème sur Gaza ». Un ensemble dont je vais vous dire maintenant de larges extraits, sur une musique qui fait partie, comme la précédente, de l'album « After the Last Sky », composé par un Anwar Brahem hanté lui aussi par le destin tragique du peuple palestinien. Le morceau s'appelle « Endless Wandering », Errance sans fin. J'essaie d'écrire un poème sur Gaza, oui. J'essaie depuis des semaines, des mois, et rien ne vient. Pourtant, je suis incapable de penser à autre chose. Les mots de Gaza se refusent à moi. Faudrait-il, pour les mériter, que je perde un, deux de mes enfants ? Que je perde moi-même un œil, une jambe, un rein ? Ou que l'on m'arrache la langue ? Alors, que me reste-t-il à dire ? Si peu, je le sais. Mais voilà, je n'arrive pas à renoncer à ce peu. J'en ai besoin pour ne pas me laisser éclabousser, engloutir par la honte, l'impuissance, la lâcheté du spectateur, ou pire, le crime d'indifférence. Leur mort ne ressemble pas à la mienne, à la vôtre. À force d'être concrète, elle est devenue totalement abstraite. Leurs morts ne sont plus que des chiffres qu'on égrène distraitement du bout des lèvres. Dans le lexique de leurs bourreaux, on ne dit pas qu'ils sont tués. Ils sont éliminés. Le jour se lève sur Gaza. Les premiers rayons du soleil caressent les décombres, les arbres calcinés, les tentes de fortune, les tombes anonymes, les vaguelettes qui continuent à bruire, à donner l'illusion d'une mer, de ses voiles, de son large et ses horizons. Les bombardiers dorment encore, les muezzines de même. Loin dans l'histoire, Gaza, une oasis, raconte-t-on, luxuriante, ouverte sur le monde civilisé, célébrée par les voyageurs à la vue de ses fruits médusés, donnant du fil à retordre à l'envahisseur, fut-il le grand Alexandre. Depuis des millénaires, les Gazaouis avaient fait fleurir le désert. Avant, bien avant ceux qui... À Gaza, on ne dit plus bonjour, bonne nuit. On ne demande pas quel temps fait-il, comment vont les enfants et la santé, le travail. La fierté empêche de se saluer en disant comme les Chinois jadis « Avez-vous mangé ?» À Gaza, on ne se parle pas quand on se croise. On se regarde du coin de l'œil, celui encore valide, et on pousse un soupir en guise de salut. À Gaza, les oiseaux ont été chassés du ciel, des volières, comme en Afghanistan, dès le premier règne des talibans. La radio ne diffuse plus de musique. Les voix n'émettent plus que des litanies ou alors des cris. On dirait étrangers à la douleur et qui retentissent, au paradoxe, comme des attestations de vie. À quel âge estime-t-on qu'on est encore un enfant à Gaza ? Un être sans défense, sans cause à défendre, sans ennemi déclaré. Un être innocent, ce qui s'appelle innocent, n'attendant des adultes, les proches ou n'importe quels autres, que gîte, nourriture, protection. À quel âge estime-t-on qu'un enfant à Gaza est déjà un soldat ? Une fois le job terminé, que restera-t-il à raser de ce que fut Gaza ? Tiens, il y a encore la mer, des vagues parfois aussi hautes que les immeubles mis à terre, et dans quelque temps, pourquoi pas du poisson ? Prochain objectif, assécher la mer, ou plus réaliste, la combler avec les milliards de tonnes de débris non déblayés. Les femmes triment plus que de coutume. Les hommes sont désœuvrés. Pour se donner bonne contenance, ils s'occupent vaguement des enfants, leur font faire des coloriages avec des croûtes de plâtre et des morceaux de charbon. Leur propose des jeux sans accessoires, que ces garnements ne prennent pas au sérieux. Ces derniers quittent alors la tente, s'emparent qui d'un seau, qui d'un jerrican, qui d'un bidon, et vont hardiment faire la queue interminable pour les remplir d'eau. Ici, l'errance est programmée. 10-15 minutes pour ramasser ses affaires, quitter les lieux et ne compter que sur ses jambes ou, par chance, sur la force de trait d'un âne tout droit sorti d'une légende. Ici, on ne vous fait pas perdre seulement le nord, mais également le sud, l'est et l'ouest, et tant qu'à faire, le centre. Où que vous alliez, vous vous retrouvez nulle part. Miracle. Un olivier seul, intact, se dressant de toute sa taille de guêpe au milieu des amas de ruines. Il porte déjà des fruits. Pas beaucoup, mais assez mûrs pour que l'on ait envie d'en cueillir ne serait-ce qu'un, le sentir, le lécher, mordre dans son amertume et laper une goutte d'huile et de palier en palier remonter ainsi l'histoire de la Palestine. Un olivier seul, miraculeux dans mon imagination débordante. Pour que les regards ne se détournent plus, pour que la réalité ne soit plus niée, pour que la vérité soit reconnue comme la vérité, pour que la conscience soit ébranlée, pour que la loi du talion soit définitivement rejetée, pour que l'impunité ne devienne pas un droit admis, pour que les souffrances passées ou présentes des uns ne justifient en aucun cas l'enfer infligé aux autres, pour que les images ne soient plus floutées, pour que le silence soit brisé, pour que le plus désirable de l'humain triomphe de la barbarie, il faudrait, ma science s'arrête là. dans le recueil d'Abdelatif Lahabi, l'ensemble de poèmes qui fait suite à celui sur Gaza est appelé Saudade, ce mot portugais lié à la musique de Fado qui exprime un sentiment complexe de mélancolie, de nostalgie et que Fernando Pessoa définissait comme le souvenir d'un bien qui nous manque. Je vous livre quelques textes inclus dans cet ensemble qui révèlent les inquiétudes de Lahabi quant à l'avenir de l'humanité. Tout converge vers le chaos. Redevenus cannibales, les hordes se bousculent au bord de l'abîme. Après sa brève éclipse, le pouvoir viril est de retour. Cette fois-ci, les femmes seront d'abord abattues avant d'être violées. Nous ne maîtrisons plus rien. Qui que nous soyons, nous ne maîtrisons plus rien. Où sont passés l'axe de la raison, la musique secrète de la langue, les éblouissements presque aveuglants de l'amour, les images parlantes des prophéties, la foi paisible en l'inespéré, le bonheur suffocant de se sentir vivant. Ne persistent que les questions, celles auxquelles on a plus ou moins répondu, et plus nombreuses encore, celles restées sans réponse. Plus une once de réalité. Le cœur bat-il encore pour quelqu'un, pour quelque chose? Il n'y a de Dieu que l'intelligence hors sol, hors espace, hors temps, et ses instruments de cruauté augmentée, conçus par des tarés élevés au rang de génie. Dépossédés, nous serons, nous sommes déjà dépossédés de ce qui nous tenait lieu de bouées de sauvetage, cannes, béquilles, garde-fous. Nous sommes dépossédés des mots de la prière, de la véracité du cri, peut-être même de l'instinct de survie. Plus rien ne s'oppose maintenant à notre extinction. La danse des blattes. Le soleil ira se faire voir ailleurs. Le clair de lune n'aura d'autres amoureux que les hyènes. Les fruits pourriront sur pied. Les blattes, s'étant préparées pour l'occasion, danseront partout où l'espèce maudite aura fait place nette. Pour qu'il y ait vie. La vie, ce n'est rien si l'on n'éprouve pas sa douceur, ses délices, ses pincements au cœur, si l'on n'avoue pas la nostalgie de l'enfance qu'elle nous a octroyée, si, à leur simple énonciation, les mots de liberté, amour, justice ne nous mettent pas instantanément sur la voie du poème. Si Abdelatif Lahabi exprime clairement sa réprobation quant à l'évolution de nos sociétés, il fait aussi la part des choses. Il sait être à l'affût de tout ce qui peut célébrer la vie, comme le proclamait déjà le premier texte que je vous ai lu en début d'émission. Alors pour terminer sur une note positive, je vous propose d'entendre ces 6 poèmes. Dictionnaire amoureux. Si opportunité m'était offerte de rédiger un dictionnaire amoureux sur un sujet de mon choix, je n'en ferais probablement rien, tant mes envies en la matière sont nombreuses, qu'on en juge. Dictionnaire amoureux du silence, des hérésies, des langues mortes, des espèces disparues, des poètes désaffectés, des ouvrages anonymes, des livres posthumes, des idées déçues, des révolutions avortées, des peuples qui n'ont jamais opprimé d'autres peuples, mais là, il va falloir beaucoup de recherches. Dictionnaire amoureux des abeilles, des fourmis, des potagers, des jardins suspendus, de l'eau, oui, simplement de l'eau. Dictionnaire amoureux des expressions imagées, dans les quelques langues que je maîtrise, des relations épistolaires entre célébrités ou communs des mortels, des quatre saisons, tant qu'elles se suivent et se perpétuent encore. Dictionnaire amoureux d'une femme, on devinera aisément laquelle. Peste, combien de vies me faudrait-il pour satisfaire ne serait-ce que la moitié de ses envies? À propos des rêves, écrire revient souvent à inventer du début à la fin des rêves. Question posée aux scientifiques. Après l'arrêt de l'activité cérébrale, peut-il y avoir, ne serait-ce que pour un temps limité, des rêves post-mortem? Tourterelle. Deux, peut-être trois tourterelles sont revenues. J'entends le chant de l'une d'elles et j'en vois une autre. Juchée sur le toit de l'immeuble d'en face, immobile et parlante, comme une statue de Michel-Ange. Cela fait des mois que j'ai remarqué leur absence et me suis préparée à faire mon deuil d'un chant qui avait bercé mon enfance. Et depuis lors, m'a toujours rendu douce la tristesse. De les savoir de nouveau là, même en petit nombre, m'apaise, et je m'entends murmurer « Ah, le bonheur, ça tient finalement à peu de choses. » Encore lui. Le jacaranda ne fleurit pas, il explose, franchit le mur de la lumière, rend caduque les couleurs de l'arc-en-ciel. Le jacaranda est son trône invisible devant lequel je me tiens, ébloui, la tête haute. Dans l'attente du printemps, même si je ne me fais plus d'illusions sur l'ancienne rotation régulière des saisons, j'attends, en cet hiver bâtard, le printemps. Viendra-t-il, trop tôt ou trop tard, s'appuyant sur une canne, en vociférant contre les atteintes à ses droits et son apanage? Fera-t-il une apparition en grande pompe, pour filer grossièrement à l'anglaise? Renouera-t-il pour une fois avec la politesse des princes et fera-t-il gonfler de sève les seins des arbres, refleurir des humains les mains, les mamelons et les lèvres? Répandra-t-il sur la page du ciel la touche d'indigo que n'utilisent que les grands maîtres? Que vienne le printemps, fût-ce en automne. Veni, vidi, non vici. J'ai eu et n'ai pas eu. Chanté et déchanté. Perdu et peu retrouvé, beaucoup ri et en douce pleuré. Je suis venu dans ce bas monde, j'ai vu et je n'ai pas vaincu.
Thank you.
C'est avec cette composition d'Anja Lechner, qui figure aussi sur l'album After the Last Sky, que nous terminons cette émission. Je vous donne donc rendez-vous au jeudi 18 juin prochain. À bientôt. Ça manque pas de poésie. Christine Fusarelli.